France Culture. France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Comment raconter ce qui ne se raconte pas ? Comment donner à voir une souffrance qu'aucune image, aussi insoutenable soit-elle, ne saurait contenir ? Comment rendre compte d'une mécanique dont aucune explication ne pourra justifier le scandale, ce non-sens tragique que constitue la guerre ? Depuis le 7 octobre et le début de la riposte israélienne à Gaza, les artistes des deux camps se retrouvent rattrapés par les horreurs du conflit actuel. Ces mêmes horreurs qui, dans le monde entier, nous parviennent noyés dans un flux continu d'informations et commentés en direct par des discours souvent eux-mêmes belliqueux. L'art se doit-il de les montrer autrement ? Autrement peut-être, mais que veut dire ce mot lorsqu'il s'agit de création artistique ? Qu'on soit écrivain ou cinéaste, la juste distance paraît difficile à trouver afin de restituer la crudité de la guerre sans la transformer en objet esthétique. Deux exigences contraires semblent ainsi s'affronter, rester humain et demeurer artiste. Doit-on abandonner les ressorts de l'imagination pour chercher à s'immerger dans la réalité brutale de la guerre ou prendre du recul pour éviter le manichéisme ? Dans ces heures sanglantes, l'art se révèle-t-il ainsi, comme intrinsèquement pacifiste, engagé, militant ? Est-il enfin possible, souhaitable, quand on est artiste, de prendre de la hauteur par rapport à la réalité binaire qu'instaure tout conflit, voire d'écrire, de réaliser, de créer contre son camp ? Israël-Gaza, peut-on rester artiste en temps de guerre ? J'aurai l'honneur de débattre sans préjugés de cette question aussi difficile que douloureuse aux côtés de deux artistes. L'un, israélo-français, l'autre franco-palestino-libanais, l'un, cinéaste et metteur en scène, l'autre, écrivain, Amos Gitaï et Jad Ilal.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Amos Gitaï.
Bonjour.
Vous êtes, comme je le disais, cinéaste et metteur en scène israélien. Vous avez une œuvre monumentale, difficile à résumer. On peut citer Bayit, le film Home, Maison, en 1980, le film Kadosh en 1999, le film Kippour en 2000. On va évidemment parler aussi de votre film de 2024, Pourquoi la guerre, Lama Milhama. Et on précisera, on en parlera aussi, le fait que vous êtes le premier cinéaste à avoir, au monde, à avoir intégré la chaire de création artistique du Collège de France en 2018-2019. Bonjour Jad Ilal.
Bonjour.
Vous êtes écrivain franco-palestino-libanais, comme je le disais aussi. Vous êtes auteur des romans Des ailes au loin, Le caprice de vivre, et d'un roman à paraître en 2026, dont nous allons parler, Ici commence la terre, le tout aux éditions Elizade. Et vous êtes co-auteur d'un recueil dont nous allons également parler, à paraître le 3 octobre aux éditions du Seuil, qui s'appelle Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie, et qui rassemble 17 écrivains pour la Palestine. Alors cette émission, je ne vous le cache pas, elle est un petit peu particulière pour moi, assez émouvante. Et c'est vrai que nous tenions avec Aline Biette, quand nous préparions cette émission, à vous rassembler, vous deux, deux artistes, autour à la fois de vos souffrances communes ou différentes, on va le voir, et de votre œuvre respective. Alors j'aimerais partir d'une question très très simple, très concrète, très incarnée. Souvent on dit, même 25 ans après, que faisiez-vous le 11 septembre ? Comment vous avez appris ce qui se passait ? Comment avez-vous découvert les images des tours jumelles qui s'effondraient ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Comment avez-vous continué votre journée ? Amos Gitaï, le 7 octobre, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi a ressemblé votre journée ce jour-là ?
D'abord, bonjour Nathan. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être strictement attaché aux dates, c'est-à-dire tout le monde part 7 octobre, après, etc. C'est-à-dire qu'il y a sept conflits israélo-palestiniens. Moi, je considère le conflit le plus important du Moyen-Orient. Il ne va pas nous laisser d'espace si on ne va pas arriver à trouver un autre modus vivendi. Et là, malgré votre proposition, je pars sur une autre date, parce que cette année, c'est 30 ans d'assassinat de Rabin, qui a décapité un processus de dialogue israélo-palestinien. Et je trouve qu'on est dans le résultat de cette coupure brutale de possibilités de parler avec l'un et les autres. Après, il y avait des petits épisodes, peut-être Barak, Olmert, etc. Et là, il a tombé sur nous le 7 octobre. Alors, bien sûr que la violence, la brutalité, le viol de Hamas le 7 octobre, le kidnapping de femmes et des hommes israéliens, c'était un choc. Et d'ailleurs, la résonance de ce choc nourrit encore le conflit actuel. Mais après, il faut pas perdre la vue de cette sauvagerie des gouvernements israéliens de bombarder et de continuer à bombarder même les jours qu'on parle aujourd'hui de l'enclave de Gaza, de détruire maison par maison, de tuer des dizaines de milliers, de la famine, etc. C'est-à-dire, là, on est dans un conflit dans lequel nous, c'est-à-dire les gens qui veulent qu'il y ait la paix, qui veulent qu'il y ait l'amitié israélo-palestinien, on a été kidnappés collectivement par ces deux forces qui ne sont pas neutres. Ils veulent ou la Palestine de River to the Sea ou Israël de River to the Sea. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent aucun modus vivendi raisonnable de créer une sorte d'espace que les deux peuples peuvent vivre. Moi, je trouve que le conflit israélo-palestinien est très différent du conflit israélo-arabe. Parce que je considère que le Hezbollah, il n'a aucune raison de tirer sur Israël. Il n'a pas un conflit territorial avec le Liban. Iran non plus. Et tous les proxys, les yémanites, etc. Mais le conflit israélo-palestinien est différent parce que je considère que ce petit morceau de terre, il appartient aux deux peuples. Et il faut que les deux peuples arrivent à trouver un modus vivendi civilisé, d'utiliser la créativité. Alors, tu as posé, Nathan, une question très compliquée. Qu'est-ce que l'art, elle peut faire dans ce contexte? Pas grand-chose. Mais l'art, de toute façon, à mon avis, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Michael Moore, qu'il croit que dès qu'il fait un film, ça change le réel. Je trouve que l'art, elle peut graver une mémoire. Et je trouve que la planète n'est pas seulement avancée par les mitrailleuses et l'argent, mais aussi par les idées. Alors il faut parler des idées, il faut parler de ce dialogue. Et après, comment on fait? Alors on a fait un spectacle qui était sur l'invitation de Wajdi Mouad au Théâtre de la Colline, dans lequel, on stage, il y avait des Israéliens, des Palestiniens, musiciens iraniens, des acteurs, actrices français, c'est-à-dire les gens qui bagarrent sur le Moyen-Orient étaient là pour faire une œuvre commune et défendre une œuvre commune. Pour moi, c'est ça le geste nécessaire, c'est-à-dire c'est pas seulement l'aspect déclaratif, parce qu'il y a trop de pétitions, je comprends même plus qu'est-ce qu'ils disent, les pétitions, ils sont pas grand impact. Il faut que le dialogue, moi je suis contre les gens qui veulent couper le dialogue est nécessaire. S'il n'y a pas de dialogue, il y a la guerre. Il faut qu'il y ait du dialogue, il faut que les gens parlent, il faut qu'il arrive d'échanger des idées. Et l'art, elle peut faciliter ce dialogue.
Alors c'est très intéressant parce que vous avez parlé aussi d'autres dates, et évidemment qu'une date aussi brutale soit-elle ne peut pas être appréhendée toute seule. Est-ce que, Jadilal, vous voulez nous raconter ce que vous avez vécu le 7 octobre, ou est-ce que ma question n'est pas pertinente et ça n'a pas de sens de nous livrer ce récit indépendamment d'un contexte global pour vous?
Je vais vous répondre de manière tout à fait personnel. En fait, moi, le 7 octobre, j'étais en train de boire un verre avec des amis. Et je me souviens très bien que c'était à côté d'une station de métro. Et donc, j'apprends ce qui se passe sur mon téléphone et je vois le métro partir. Et c'est très curieux parce que j'ai senti très exactement que ce qui se produisait était un peu comme ce métro qui partait. C'est-à-dire le sentiment d'un côté qu'il y avait quelque chose, bien entendu, de gravissime dans les attaques du Hamas, et dans le même temps, de voir une histoire et une manière d'appréhender la situation entre Israël et Palestine qui m'échappe complètement. Dans le regard de mes amis, dans le regard de mes amis très proches notamment, et ce sentiment qu'on peut avoir, je pense, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, que quand on élargit la question et qu'on ne pense pas qu'au 7 octobre, mais on inscrit ça dans une histoire globale. Ce sentiment étant que on sait très bien, dans ces cas-là, comment la suite va être. Et moi, je savais très bien que ce que fait le gouvernement d'Israël depuis des dizaines d'années est toujours assez identique. C'est une réponse exponentielle, 10 morts, égale 100 morts, et qui n'est pas du tout ciblé. Donc je sens, et vraiment c'est immédiat, c'est-à-dire je sens très bien à ce moment-là précisément que ça va être une catastrophe pour les Palestiniens. Ce qui va suivre, l'hécatombe. Parce qu'il y a les intifadas en tête, et parce que chaque opération qui a été organisée par les Palestiniens a conduit à ça, des conséquences qui étaient catastrophiques dans l'autre sens. Et ça, ce qui est très compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut le savoir que quand on a vécu cette période-là de l'intérieur, cette géographie-là de l'intérieur, et que c'est très difficile de ne pas se sentir compris par des gens qui peuvent être des amis très proches. Voilà. Des gens qui ne comprennent pas que plus on insiste en fait sur l'horreur du 7 octobre, on a raison de le faire dans l'immédiat, hein, mais plus ça prend de place, plus ça prend du temps, plus on est en retard en fait. Voilà. Pour pouvoir réaliser ce qui est en train de se passer déjà à ce moment-là, c'est-à-dire la réponse. Et c'est ce qui me fait le plus peur en réalité, encore aujourd'hui, c'est cette sidération qui a été d'une efficacité invraisemblable en France, peu importe le public, etc., peu importe le média, dans les attaques du 7 octobre, j'ai l'impression que ça a sidéré et que donc les gens sont arrivés trop tard à la réalisation de ce qui était en train de se produire en retour et aux morts qui s'accumulaient côté palestinien. Donc ça, c'est vraiment le sentiment que j'éprouve vraiment à la minute où ça se passe, parce que voilà, j'ai la famille derrière, palestinienne, etc. Après, sur cette question du 7 octobre, je dois vous avouer que je suis assez d'accord, parce que, en fait, disons que ça n'est pas totalement anodin de dater un conflit au 7 octobre. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas dire une date au hasard. C'est aussi envisager que le conflit commence à cet endroit-là, vraiment. Que la guerre commence à cet endroit-là, si qu'on puisse parler de guerre. Et utiliser le mot guerre aussi, c'est aussi un débat possible. Moi, j'estime que quand on fait ça, c'est déjà une prise de position. Et qu'on peut aussi voir les choses autrement, par exemple, notamment comme le 7 octobre étant plus un symptôme ou une répercussion d'un État qui n'était pas viable. Voilà. Depuis 48 en réalité, hein. Je veux dire, s'il s'agit de même avant. Et donc, quand le 7 octobre devient un symptôme barbare et violent d'une situation plus générale, les termes qu'on emploie ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que moi, dans mon appréhension de cette situation, j'emploie plus volontiers les termes de colonisation que de guerre, par exemple, à l'état actuel. Parce que j'estime que ce qui se produit, c'est plutôt ça maintenant. La guerre a introduit pour moi une réciprocité, et là, pour moi, en l'état, ce qui se joue, c'est davantage une colonisation. Et en Cisjordanie notamment, voilà.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Alors, en effet, le choix des mots est particulièrement compliqué. Je vais employer dans ma question à Mosguitaï le terme de guerre, parce que ça fait référence au film que vous avez réalisé qui est sorti en 2024 et que vous avez réalisé dès 2023, si ma mémoire est bonne, en Israël. Donc, pendant la guerre qui se jouait à Gaza, enfin, qui avait lieu à Gaza, c'est un film qui s'appelle « Pourquoi ?» la guerre, et qui met en scène le dialogue épistolaire qui a vraiment existé entre Einstein et Freud, qui s'interrogent mutuellement sur les causes de la guerre, et surtout Einstein interrogeant Freud à ce sujet, et avec aussi des personnages, d'abord vous montrer des scènes qui se passent à Tel Aviv, dans des théâtres, dans les rues, sur la place des otages, etc. Et puis, il y a un moment, une femme qui raconte la manière dont elle voit la guerre à travers des images qui sont filmées à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais sur
une femme qui s'appelle Irène Jacob.
Exactement, Irène Jacob.
Jouée par Amos, quand tu me parles de pourquoi la guerre, je pense à ce que je connais de la guerre, c'est-à-dire regarder des images à la télévision. J'écoute ces génériques avec la terre qui tourne, une sélection de chocs, de photos, des titres. Cette musique empruntée à un film d'action qui vient rythmer toutes les 10 minutes le flux de la chaîne d'infos. Et devant laquelle le spectateur doit patienter pour la suite de l'actualité. Et puis toujours les mêmes images en continu, elles sont répétées, réinterprétées, Cette musique, je peux la fredonner ensuite, sans faire exprès. Elle me reste dans la tête comme un mauvais coup dans la bouche. Qu'est-ce que ça me fait de regarder la guerre à la télé? Comment est-ce qu'elle me traverse? Comment je la tiens à distance? Comment elle s'empare de mes émotions, de mon corps? Est-ce qu'elles ont un effet sur moi? Je pourrais pleurer, m'accroupir dans un coin de la chambre, apeurée, ne plus bouger. Mais non, pourtant je continue ma journée. Le fait est que je me maquille, que je réponds gaiement à mon fils au téléphone avec un œil qui voit ces images de guerre et un autre qui tourne la tête pour continuer ma conversation. Car je dois me protéger.
Amos Gitaï, dans vos films, il vous est arrivé souvent d'utiliser des images d'archives. Par exemple, dans le dernier jour d'Yitzhak Rabin, là, dans Pourquoi la guerre, vous proposez cette réflexion sur la manière dont les images, aussi bien celles du 7 octobre que celles des bombardements sur Gaza et des victimes civiles de Gaza quotidiennes, ces images-là s'invitent dans la vie des gens qui observent de façon impuissante cette guerre. Pourquoi avez-vous voulu, en un sens, mettre à distance les images brutales, crues de ce conflit?
Parce que moi, je trouve qu'actuellement, l'image nourrit la guerre. Alors je décidais, c'est peut-être une contradiction, de faire un film qui pose la question « Pourquoi la guerre ?» sans l'image de guerre. Je trouve que la télé israélienne, qui diffuse tout le temps les tragédies des familles des gens kidnappés, les otages, et leur histoire terrifiante, et l'image de, d'ailleurs diffusée d'une façon manipulative par le Hamas, les gens qui sont presque dans les tunnels, etc., ça nourrit le désir de vengeance. Je trouve que Al Jazeera, qui diffuse strictement l'image de bombardement, de destruction de par Israël de Gaza, ça nourrit aussi le sens de vengeance. Alors je trouve que je suis complètement d'accord avec le test de Susan Sontag, qui appelait les gens de regarder les souffrances de l'autre. De toute façon, sans regarder l'autre, il n'y a pas la paix. La paix, comme l'amour, c'est l'autre, il faut exister. C'est pas une histoire unilatérale. Si on reste dans les machines de diffusion, comme M. Netanyahu hier par le haut-parleur, que je trouve complètement absurde, sur le bande de Gaza, ou par le Hamas qui diffuse strictement leur version de ce conflit, c'est des groupes d'ailleurs qui sont... Même l'assassinat de Rabin, il était assassiné par un Israélien, mais c'est le moment des pires des actes de terror palestiniens, des djihad et le Hamas, dans les centres civils israéliens, qui, dans cette dialectique, a affaibli le gouvernement Rabin jusqu'à quand Israélien est venu tuer Rabin. C'est-à-dire cette force du Moyen-Orient, qui sont plus forts que tous les autres, qu'il veut qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas la réconciliation, parce qu'ils sont inspirés par un messianisme islamiste ou messianisme juif. Et ces deux forces-là, ils sont très dangereux pour l'avenir du Moyen-Orient. Et moi, j'ai décidé de faire un film sur ce texte que je trouve que le texte de dialogue d'Einstein et Freud, c'est-à-dire Einstein, il décrit... C'est un texte qui était commandé par les Ligues des Nations après la Première Guerre mondiale. Et Einstein, il fait un texte presque marxiste parce qu'il nous parle des machines de guerre, l'argent, les gens qui profitent de la guerre. Et Freud, il parle strictement de « human soul », l'âme humaine. Et Freud aussi, au début, il est plutôt optimiste dans l'impact de culture. Il a dit « la seule chose à faire, c'est de faire des œuvres culturelles ». Mais à la fin de sa vie, les scènes qu'on a tournées en partie à Berlin et aussi à Paris, il a dit « même la culture, elle ne change pas. La culture, elle ne va pas modifier le réel, etc. » Alors, je trouve que cette réflexion... de dépenser sur les questions de guerre dans le sens large, ça peut être appliqué aux guerres Israël et Gaza, et ça peut être la guerre de l'Ukraine et des autres conflits, Soudan, qu'on oublie souvent. Il y a plein de conflits actuellement sur la Terre. Et les gens, ils sont accrochés à cette cellule-là, d'Israël et Gaza. Mais il y a d'autres conflits. Je trouve qu'il faut poser la question, pourquoi l'être humain, qui sont plutôt des animaux assez intelligents, pourquoi il n'arrive pas de résoudre des conflits sans les bagarres, sans la guerre. Et c'est ça qui était le sens de ce projet.
Alors, Jadilal, vous aussi, vous avez choisi en un sens, de mettre à distance le simple rapport aux images de ces bombardements et des victimes civiles à Gaza. Donc, je disais, vous avez coécrit, vous avez participé à un recueil qui paraîtra le 3 octobre prochain aux éditions du Seuil. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie, avec notamment la présence de Le Clésio, Annie Ernaux et beaucoup d'autres auteurs. Vous avez écrit une nouvelle qui s'appelle Khalas, sur deux Gazaouis qui sont très proches, qui ont tous les deux perdu leur fille, et qui sont chacun dans une logique de déni ou d'invention de la fille, comme vous le dites au début de la nouvelle, un petit peu différente. Alors je vous propose de lire un extrait qui se situe vers la fin.
Khalid Harry. Puis ses yeux se sont perdus dans le grand ciel bleu. Tu penses qu'on y arrivera à ne pas oublier la vie, comme moi je l'ai fait avec ma fille, la mort, comme tu l'as fait avec la tienne, à se souvenir d'elle, se souvenir seulement. Pour toute réponse, Shawki a fixé la mer, les yeux plissés par le reflet du soleil sur l'eau. Khalid a regretté. Il s'est dit que lui, Shawki, aurait peut-être préféré oublier, pour se remémorer un peu mieux, effacer la personne de Faïza et ne garder que les souvenirs qu'il avait d'elle. La tuer, elle, la ressusciter en lui. Alors que lui, c'était l'inverse. Ne pas gommer Rim. La garder assez en mémoire pour la laisser partir en douceur. Oublier pour se souvenir, ou se souvenir pour oublier.
Comment vous êtes-vous mis à réussir à écrire, et en plus à écrire un texte, non pas fictif, parce qu'il s'appuie évidemment sur une réalité, mais en tout cas où vous concevez des personnages dans ces heures tragiques?
C'est un processus qui a été variable. Il y a des moments où je n'ai pas pu. Il faut déjà le dire, il y a des moments où je n'ai pas pu écrire. Et où en fait l'urgence s'invite... Dans la création, dans l'écriture, de manière très maladroite parfois. Et parfois, quand les choses sont un peu digérées, ça peut être différent. Mais en fait, je crois que c'est jamais... Il n'y a pas de réponse systématique à ce genre de situation. Parce que écrire, je ne sais pas, pour moi en tout cas, c'est dire ce qui ne sort pas. C'est l'expression des choses qui sont intérieures et qui ont des difficultés, en fait, à être dites. Parce qu'elles ne sont pas entendables ou parce qu'il n'y a pas les mots à l'oral. Et donc, cette nouvelle-là, je l'ai écrite vraiment à un moment où j'ai su que je pouvais raconter autre chose que ce qu'on entendait et que je devais le faire. Voilà. Je pense que c'est là où il y a peut-être deux réalités. La première, c'est le devoir moral. Et c'est pas théorique, c'est-à-dire que c'est vraiment une injonction qui se fait de manière tout à fait ventrale. J'ai besoin de parler de ça parce que, quelque part en moi, même si je vis en France et que ma famille n'est pas en Palestine, quelque chose me touche vraiment très fort et il faut que ça sorte. C'est ventral. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, je crois que elle est liée à l'urgence de trouver un canal différent pour pallier un peu aux insuffisances du canal habituel, c'est-à-dire le canal médiatique, le canal politique, qui en fait ne rend pas compte du tout de ce qui se produit, de l'horreur qui se produit sur place. C'est ce que j'aime bien dire en général, c'est que voilà, effectivement... Quand je parle de la Palestine, on me dit « oui, mais les otages, il faudrait déjà que les Palestiniens rendent les otages ». Et c'est des formules qui m'ont toujours beaucoup interrogé, parce que ce ne sont pas les Palestiniens qui ont les otages. Oui. Donc en fait, c'est ça, c'est ce rappel-là, je pense, cette évidence-là que la littérature remet parfois en lumière, à savoir qu'on ne parle pas du Hamas ou de Netanyahou, on parle de gens, voilà, des personnes, avec des trajectoires individuelles, des vies, comme nous. Des premiers baisers, des premiers films vus au cinéma, des premiers... et qui meurent. individuellement. Et ça, je pense que la littérature, en réinscrivant en fait le destin des gens dans des trajectoires individuelles, le rappelle. Elle nous montre que ça n'est pas un chiffre, un nombre de morts. En fait, c'est une succession d'individus avec des trajectoires uniques qui peuvent être comparables aux nôtres et qui meurent. Voilà. C'est comme si nous, voilà, individuellement, voilà, on mourait du jour au lendemain. Et ça, ça a été important pour moi pour écrire Khalas, parce que j'ai voulu, dans ce texte-là, raconter vraiment comment, dans un temps où la mort est aussi habituelle, on peut gérer la mort d'un enfant. Et quelles sont les béquilles? C'est pour ça que moi, je trouve que c'est là où on propose quelque chose d'un peu plus humain dans l'art en général. C'est que c'est des personnages qui sont imparfaits, des discours qui sont imparfaits, qui ne visent pas forcément à convaincre, qui sont nuancés. Et ces deux personnages-là sont en échec. Ils n'arrivent pas à oublier la mort de leur fille, respectivement. L'un l'invente alors qu'elle est décédée, l'autre nie qu'elle ait jamais existé. Et en fait, ils se disent l'un à l'autre qu'ils devraient voir un psychologue, et ils deviennent l'un l'autre le psychologue, enfin, l'un devient le psychologue de l'autre, quoi, disons, et il se trouve que c'est, voilà, là, il y a une humanité possible, en fait. Ouais.
Sur cette question de la nuance, de l'humanisation de l'autre, il y a une chose, Amos Gitaï, que je n'ai pas dite à votre sujet, c'est que vous avez une formation d'architecte, que votre père était architecte aussi, du mouvement Bauhaus. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, la caméra est une sorte de fétiche. Vous reveniez sur l'importance pour vous de l'architecture dans votre création artistique, en disant que l'architecture est un art qui nécessite d'avoir, de convoquer plusieurs regards pour observer un même bâtiment. De la même manière qu'il faut plusieurs regards pour comprendre la réalité. Et je crois que ça a eu une importance dans votre film Bait House. Est-ce que le fait d'être architecte, ça, c'est important quand vous essayez comme ça de convoquer les regards des deux peuples et des victimes ou des humains qui vivent des deux côtés?
Moi, je trouve qu'il ne faut pas tout transposer sur ce pauvre conflit. Parce que l'architecture va exister au-delà du Moyen-Orient. Je crois qu'un des problèmes, c'est que les deux groupes, ils croient qu'ils sont le centre de la planète, et que tout le monde parlait de leur conflit. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres conflits. Ils veulent consommer tous les médias mondiaux. D'ailleurs, ils réussissent, plutôt réussissent. Alors, il ne faut pas canaliser tout sur ce conflit israélo-palestinien. Il est important, mais je crois que le problème des deux groupes, qu'ils croient qu'ils sont le centre planétaire, mais il y a d'autres conflits, il y a d'autres relations humaines, il y a d'autres métiers comme l'architecture. Mais c'est vrai que moi, j'ai tapé 9 ans d'études d'architecture. J'ai fait un diplôme d'architecture à Haïfa, à Technion. Et après, j'étais allé faire un master et un doctorat d'architecture à Berkeley. Là, j'avais le plaisir de raconter des penseurs marxistes, des Frankfurt School, des Philosophy of Science, etc., etc. Mais c'est vrai que l'architecture, comme le cinéma d'ailleurs, il y a un aspect concret. Il y a un aspect concret. Il y a un budget, il y a des timetables, il y a des façons d'avancer un projet. Et je crois que c'est surtout celui-là qui m'aide de donner une structure. Parce que je trouve que l'œuvre artistique, si c'est un film ou un théâtre, il demande des choses un peu structurelles. Sinon, on est strictement de l'émotion. Les gens parlent beaucoup en France de l'émotion. Mais je trouve que c'est un truc très fade. Il faut qu'il y ait une structure. Il faut aussi qu'il y ait une pensée politique, pas seulement le choc émotionnel. La chose qui m'intéresse, c'est les perspectives. Comment on sort de cette impasse pour construire un autre Moyen-Orient, que je crois que cette région, qui était le début de l'humanité, mérite.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bon, alors là, Jadilal, je vais vous demander quelque chose de très difficile. Vous êtes, je crois, en train d'écrire un livre. Je ne sais pas si c'est la situation actuelle qui vous a donné l'inspiration ou poussé à vous engager dans cette écriture, mais donc je vais vous demander de parler d'un roman que vous n'avez peut-être pas fini, en tout cas qui n'existe pas encore, qui s'appellera « Ici commence la Terre », à paraître chez votre éditeur, donc Elizade, en 2026. Qu'est-ce qui vous a amené, et qui sera évidemment inspiré de votre histoire familiale en Palestine, et votre grand-mère en Palestine, je crois. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là ?
Ce livre naît à l'enterrement de ma grand-mère, au tout départ. C'est un roman qui, en fait, parle de deux choses, de l'exil, d'abord. Et l'exil, en fait, pour une famille comme la mienne, conduit à ce que les moments où on soit réunis sont des moments, en général, dramatiques. Ce qui est le cas pour la plupart des familles éclatées, hein, mais c'est-à-dire qu'on se réunit, on se dit souvent pour les mariages et les enterrements. Moi, effectivement, c'est l'enterrement de ma grand-mère qui a réuni la famille. Et en fait, ça a été le moment, cet enterrement-là, de la résurrection d'une tradition très palestinienne que je ne connaissais pas, qui est l'anecdote, le récit, le souvenir. Ma grand-mère me racontait quand elle était vivante que dans les camps en 48, quand elle a fui pendant la Nekba, il y avait une tradition qui consistait à se réunir dans les camps par lieu d'où on provenait. Donc, il y avait un quartier Haïfa, un quartier Shefa Amer. Et on racontait des anecdotes du lieu où on habitait. Le garçon qui courait dans les rues et qui criait et qui réveillait tout le monde parce qu'il avait de l'agneau. Le boucher ou le boulanger, je ne sais plus, qui draguait les clientes pour vendre son pain. Bref, voilà. Et chaque anecdote se terminait par une formule qui était dite, donc, entre l'étoile et les étoiles, on pourrait dire, qui était Naesh ou Nezakar, ce qui signifie qu'on vive et se souvienne. Et c'est ce qui s'est produit pendant l'enterrement de ma grand-mère. On a tous évoqué des souvenirs d'elle. Et à partir de là, moi, j'ai été élevé par elle pendant 17 ans, mais j'ai vu un portrait à la Picasso, totalement cubique, totalement bigarré, d'une personne, et j'ai découvert une personne, voilà, qui m'avait pourtant élevé pendant 17 ans. Et je me suis dit que cette histoire-là méritait d'être dite, parce que d'abord, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le texte, et je pense que, enfin, j'espère avoir réussi à le faire, en tout cas, je suis content de ce que j'ai écrit à ce niveau-là. C'est raconter d'abord à quel point, en fait, un exil affecte pas seulement l'exilé, mais la génération qui suit et la génération qui suit. Comment, en fait, on a des insécurités par rapport au lieu, alors qu'on n'a pas connu la guerre, etc. Mais ça, c'est propre à tous les exils. Et la spécificité de l'exil palestinien, et ça, je l'ai constaté chez ma grand-mère, mais pareil dans ma famille, dans des témoignages de Palestiniens que j'ai autour aussi, c'est le rapport à la terre. Et c'est pas un hasard si le titre du recueil, d'ailleurs, comporte le mot aussi aux éditions du Seuil. Le mot « terre », en fait, pour un Palestinien, il a un sens très concret. On parle pas seulement de territoire, on parle vraiment de terre au sens premier, c'est-à-dire le goût des figues, le goût des oliviers, la terre sous les ongles le soir, les bœufs, voilà. Il y a quelque chose de pastoral, vraiment, hein, si on devait faire un lien, qui, moi, m'a vraiment beaucoup intéressé. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre dans le texte, oui.
Mais ce que je trouve très intéressant sur la question de la terre, il y a le fameux livre de Mahmoud Darwish qui s'appelait « La Palestine comme métaphore mm-hmm. ». C'est, je crois, aussi assez important dans la littérature palestinienne. Il y avait un livre qui s'appelait « Ce que la Palestine apporte au monde » qui est apparu aux éditions du Seuil aussi, oui, et qui développait cette idée-là. Et là, j'ai l'impression que vous voulez aller sur une sorte de tournant dans la littérature palestinienne pour mettre en relief la question de la terre. Alors, Amos Gitaï, je vous pose la question aussi difficile de parler d'une œuvre qui n'existe pas encore, mais je crois savoir, en tout cas vous en avez parlé dans le Zeit, que vous envisagez de réaliser éventuellement un film consacré à votre mère, Efratia Gitaï, dont vous avez déjà publié la correspondance aux éditions Gallimard, qui est née à Tel Aviv en 1909, c'est-à-dire l'année même de la naissance de la ville de Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film ?
Mais c'est toujours une erreur de parler un film avant qu'il ait été fait. Alors je ne vais pas prendre ce risque. Non, mais je trouve que les choses qui intéressaient les gens des générations de mes parents, c'est la modernité. La modernité, pas seulement la nostalgie. C'est-à-dire comment créer un place qui n'est pas très religieux. Ils sont plutôt confortables avec leur identité juive, mais ils ne sont pas religieux. Et ils sont déplacés par des raisons. C'est-à-dire, pour moi, de toute façon, théoriquement, et c'est la thématique de beaucoup de choses que j'ai fait, c'est l'expérience humaine, pas seulement de notre région, de déplacement. Et il est une expérience principale de temps moderne. C'est-à-dire, les gens étaient déplacés par les réfugiés. par les guerres, par l'urbanisme, par les pressions économiques. Il n'y a aucune communauté intacte qui restait intacte depuis des siècles. C'est ça l'expérience moderne. Et la question, comment on arrive à parler effectivement à travers de l'aide de ma mère qui était éditée maintenant à plusieurs langues, d'abord en hébreu, après par Gallimard ici en France, après en Italie, après à New York, à Primo Levi, etc., etc. Et plus tard à Brésil, il y avait une soirée à São Paulo et mon ami Walter Salles qui vient de voir le Oscar de meilleur film étranger, qui est un grand réalisateur brésilien, il m'a appelé, il est venu me voir avec une simple déclaration. Il m'a dit « I'm in love with your mother ». Alors, il m'a dit « Amos, il faut que tu fasses un film sur elle », qui est toujours un projet un peu complexe, parce que de faire un film sur ma mère, sans être... Parce que ma mère était une femme moderne, intelligente, critique. C'est pas les boubas, toi, le génie de la planète, etc. On avait un bon rapport, mais c'était plutôt... Elle a fait des challenges. Et ces lettres qui étaient éditées ici, qui étaient aussi lues par... Jean Moreau, il a fait tous les 9 épisodes sur France Culture, des lectures des lettres de ma mère, et parce que Jean Moreau, il a adoré ce projet. Jean Moreau, d'ailleurs, il m'a dit une chose que je trouve qu'il est vrai pour le travail que je fais. Il m'a dit, écoute, je ne veux pas faire ni une pièce de théâtre, ni un film, si je ne peux pas apprendre quelque chose que je ne connais pas encore. C'est-à-dire, pour elle, de faire un projet, c'est une sorte de prétexte d'élargir son connaissance. Et là, comme on a travaillé sur les lectures de ces lettres, des lettres de ma mère, d'ailleurs, il y avait plein de livres sur le Moyen-Orient, sur l'histoire romaine, sur l'antisémitisme. Elle était très marquée par Jean Moreau, par son enfance, comme elle a vu les enfants juifs qui étaient en train de retirer de l'école, comme elle était enfant à Paris, Jean Moreau. Et même le film que j'ai fait avec elle sur les textes de Jérôme Clément, et plus tard, tu comprendras. C'est-à-dire, il faut toujours, je trouve que dans les démarches d'écriture ou de travail cinématographique, prendre un projet comme un prétexte d'élargir quelque chose, pas seulement de documenter une chose. Alors, le film que je ne vais pas dévoiler, My Dear Nathan, chez toi, parce que je ne sais pas encore. Et d'ailleurs, comme je suis d'accord avec Jean Moreau, pour moi, tout projet, c'est un voyage vers l'inconnu. C'est pour ça que nous, finalement, on va gagner contre l'artificial intelligence, parce que l'artificial intelligence, il peut faire un sommaire des choses déjà connues. Et l'acte créatif, c'est un vrai voyage des sous-consciences, des choses inconnues.
Oui, alors, vous êtes tous les deux artistes. Il se fait que je vous ai rencontrés dans des conditions différentes. Le hasard a fait que j'ai assisté...
Voisin d'hôtel. Irène Jacob.
Exactement. Et donc, j'ai assisté au tournage de certaines scènes de Pourquoi la guerre. Et Jadilal, pour tout dire, je vous ai rencontré par vos interventions dans le débat public. Alors, ce serait un autre débat encore, évidemment, très très large. Mais en tant qu'écrivain... qui a été à plusieurs reprises dans des émissions pour porter, disons, une voix palestinienne. Comment vous avez vécu cette expérience ?
C'est tout à fait schizophrène, parce que d'un côté, il y a le sentiment, et la réalité d'ailleurs, de se jeter dans la gueule du loup, c'est-à-dire d'apparaître tout au mieux comme une caution, disons, c'est-à-dire que certains médias, en France notamment, ont un point de vue très subjectif, très biaisé à l'endroit de la situation Israël-Palestine, en faveur d'Israël, bien sûr. Et en y allant, je suis tout à fait lucide sur cette conséquence qui est que je leur donne un prétexte, en fait. Ils se lavent les mains, voilà, de leur subjectivité, et puis ils peuvent défendre une neutralité en disant, voilà, nous ne prenons pas position puisque nous invitons un auteur palestinien. Donc je leur donne cette chance-là, cette possibilité de faire ça. Et ça, c'est un problème, effectivement. Parce que c'est pas en invitant un palestinien qu'on affirme une certaine neutralité par rapport à cette question-là. D'un autre côté, il y a tellement peu de Palestiniens et tellement peu de Palestiniens aussi qui se sentent d'y aller, parce que c'est vraiment compliqué, je le comprends tout à fait. je respecte bien sûr, que c'est difficile de ne pas y aller. Parce qu'il y a quand même l'urgence de devoir donner cette voix. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à vivre. Après, ça n'est pas de la littérature. Moi, je distingue vraiment de manière tout à fait pragmatique et pratique. C'est un exercice qui est très différent, qui est bien plus péremptoire, qui est bien plus court dans le temps, et qui ne permet... C'est pas ce que je préfère. Vraiment pas. Voilà. Juste pour dire aussi, l'expérience médiatique a aussi été, pour moi, synonymique d'une déontologie à revoir.
Oui, vous avez écrit une tribune, d'ailleurs, dans le club de Mediapart, là-dessus. Je renvoie nos éditeurs là-dessus, sur le sentiment de ne pas être écouté, et que les voix palestiniennes n'ont pas eu cette écoute-là en France et peut-être en Occident. Amos Gitaï, il y a un court-métrage de vous que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Book of Amos, le livre d'Amos, le jeu de mots sur le prophète, où vous reprenez les extraits du livre d'Amos, qui est un livre extrêmement violent sur la société, sur l'injustice, etc. Est-ce que vous pensez qu'un artiste engagé, comme vous l'êtes, est en un sens un héritier laïque du prophète biblique ?
Moi, je trouve que tous les textes, pas seulement la Bible, mais aussi des textes des bouddhistes, etc., c'est des éléments de humanité. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les choses que Pasolini, des fois Jean-Luc Godard, etc., considèrent que tous les édifices culturels, ils sont un challenge valable. Et comme ma mère, comme on a parlé tout à l'heure de ma mère, malgré qu'elle était à Freud, elle était allée voir Freud à Vienne, et comme elle est rentrée, elle est devenue prof de Bible, mais d'une façon laïque. Moi, je trouve que les textes bibliques, ils nous racontent beaucoup sur les questions d'éthique, de moralité, etc. Et comme il y avait ce projet avec Sean Penn, avec 10 cinéastes qui m'a dit « Écoute, il faut que tu parles de Dieu. » Je dis « Moi, je ne suis pas religieux. » Je dis « Je vais faire un hommage à Amos, celui-là qui était à Montagne de Hébron il y a 3000 ans. » Les gens de Los Angeles m'ont demandé la question « C'est qui, à qui le droit d'auteur ?» Je lui ai dit « Il faut chercher un berger à Hébron. » J'ai fait « The Book of Amos » avec ce texte magnifique d'Amos, pas moi, l'Amos d'origine, il y a 3000 ans.
Exactement. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette émission. J'ai trouvé ça passionnant de voir qu'il y a aussi une universalité de l'art. La question de la Palestine comme métaphore, du texte biblique. Il y a vraiment quelque chose, peut-être, je crois, qui porte une promesse de paix. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement Aline Biet pour la formidable préparation de cette émission. Et Souad Bokorsa pour la formidable réalisation et mise en onde de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.